Radio France lance Podcasting, le premier casting géant de podcasteurs. Proposez vos projets de podcast les plus innovants. Vie quotidienne, science, jeux, écologie. Sentez-vous libre. Une seule consigne, du jamais vu. Enfin, du jamais entendu. Vous avez jusqu'au 10 février pour poster votre candidature sur radiofrance.com.
C'est sans conteste un des événements de l'année. Une exposition sur l'art et la préhistoire au Musée de l'Homme, les toutes premières images de l'humanité. On nous le dit sans détour, l'art préhistorique n'a jamais été aussi contemporain. Soit, pour autant, que dire des intentions des artistes comme de l'irruption soudaine d'images il y a plus de 40 000 ans. Pour en savoir plus, pour cheminer entre les merveilles, pièces originales exposées pour l'occasion, y croiser la Vénus de l'Espugue en majesté, mais aussi des chefs-d'œuvre de Logerie Basse ou du Rocher de l'Impératrice, des grottes d'Isturitz dans l'Aisne, de la Marche comme du Mas d'Asile, j'ai rencontré les deux commissaires de l'exposition, incontournables spécialistes de cet art des origines, Patrick Payet et Éric Robert, maîtres de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle. Patrick Payet, ma question sera directe, peut-être un peu tranchante. Qu'est-ce que l'art préhistorique ?
D'abord, il n'y a pas d'art préhistorique, il y a des arts de la préhistoire. C'est déjà une première chose. L'art préhistorique, les arts de la préhistoire, sont des manifestations graphiques, plastiques, qui inondent de par le monde tous les types de supports depuis au moins 45 000 ans, peut-être plus. C'est donc un phénomène tout à fait normal, je dirais quelque part, de ces conceptions, de ces fabrications, de ces élaborations d'images de par le monde à partir de Sapiens, finalement. Quand Sapiens peuple petit à petit les différents continents, il va imprégner sa présence dans la nature, sur les objets, et cette présence, il l'imprègne au travers d'images tirées de la nature, de son environnement et de son propre imaginaire.
Quand vous dites Sapiens, c'est Sapiens, Cro-Magnon, ou ça pourrait être Néandertal ?
Alors, jusqu'à présent, évidemment, nous sommes plus enclins à imaginer ces productions artistiques de la main de Sapiens, plutôt que de celle de Néandertal, même si Néandertal n'est pas tout à fait en reste, puisque on lui a attribué un certain nombre de pratiques graphiques, à défaut d'être véritablement artistiques. Néandertal façonne des parures, Néandertal incise des ossements, Néandertal grave également des parois de grottes, comme en Espagne du Sud. Mais Néandertal reste un cas un peu exceptionnel, probablement tardif du point de vue chronologique. Ce sont surtout les derniers Néandertaliens qui manifestent cet intérêt pour les choses des symboles, pour les manifestent ces comportements symboliques. Mais ce sont essentiellement, évidemment, les Sapiens, qui sont les auteurs de ces images.
Éric Robert, les images de la préhistoire tirent leurs origines, bien sûr, de la nature. À l'évidence, l'ambition des artistes n'est pas pour autant que seulement de copier cette nature.
Non, ces arts de la préhistoire, ils sont non pas une copie de cette nature et de cet environnement, en revanche, ils sont une inspiration directe. On y retrouve principalement et notamment les animaux, ceux qui sont présents dans leur environnement, une sélection de ces animaux, et essentiellement ça. En revanche, on ne va pas retrouver bien évidemment des représentations de ces paysages, mais ces arts, ils sont aussi inscrits dans leurs paysages et inscrits dans leurs environnements. Qu'il s'agisse des grottes, des abris, des parois de plein air, eh bien, toutes ces figures, ces représentations, ces peintures, ces gravures, elles prennent corps et elles prennent sens sur des parois, sur des roches, dans ces contextes et dans ces paysages. Et en son sens, ils sont pleinement une composante de chacun de ces environnements.
Cela fait du coup de l'art préhistorique, j'aurais pas dit l'art préhistorique, j'aurais dit l'art de la préhistoire, quelque chose de très particulier par rapport à l'histoire de l'art.
C'est quelque chose de très singulier. Très singulier à plus d'un titre, parce que d'abord, toutes ces images, elles sont extrêmement évocatrices pour nous. À la fois, elles nous parlent, elles nous sensibilisent, et en même temps, on ne sait pas le sens, l'essence, les fonctions qu'il y a de caché derrière. Et puis c'est précisément, effectivement, l'inscription dans ces contextes tout à fait singuliers, exceptionnels, divers, qu'il s'agisse de couloirs étroits, de petites galeries, parfois de chatières dans lesquelles on peut difficilement se glisser au fond des grottes, ou au contraire de falaises majestueuses de plusieurs dizaines de mètres de haut qui se voient dans le paysage à des kilomètres autour et où les représentations vont pleinement s'inscrire, parler et être exposées au plus grand nombre. Il y a des réalités multiples, superbes, incroyables, et qui font de ces arts, de ces représentations, quelque chose de tout à fait singulier par rapport à tout ce que l'on peut connaître dans des contextes plus récents.
Patrick Payet, si l'art ne représente pas la nature, il nous faut dans ces cas-là réfléchir à l'imaginaire des artistes, l'imaginaire des hommes préhistoriques, des préhistoriques.
L'imaginaire de Sapiens est un imaginaire sans fin et sans limites et sans frontières. Les artistes préhistoriques s'inspirent effectivement de la nature, mais ne copient pas la nature, ils la recréent. Et dans ce processus finalement de recréation des formes, est petit à petit instillé quelque part des concepts, je dirais, plus abstraits d'une certaine manière, qui révèlent, si vous voulez, les linéaments, qui révèlent tout le cœur de l'imaginaire de ces sociétés préhistoriques, de ces groupes préhistoriques, de ces artistes de la préhistoire, imaginaire qui part dans toutes les directions, qui peut se composer à partir de la réalité, c'est-à-dire cristalliser autour d'une représentation un élément tiré d'un animal, un élément tiré d'un humain, etc., et recomposer une image complètement fantastique, quelque part composite, ou bien tout simplement recréer cette fois-ci une pensée, ou tout du moins matérialiser une pensée des récits au travers de symboles complètement géométriques dont l'origine est exclusivement tiré de l'imaginaire, des conceptions, des idées de ces préhistoriques.
Les femmes magdaléniennes, par exemple, extrêmement stylisées.
Les femmes magdaléniennes appartiennent effectivement à ce répertoire des représentations figuratives totalement géométrisées quelque part, qui ont été totalement rabotées, dont les détails superflus ont été effacés, négligés, la tête, les bras, etc., pour ne conserver qu'une idée de la femme qui était là pour le coup aux magdaléniens centralisée sur le massif fessier, le reste étant complètement jugé subsidiaire.
Alors commençons, Éric Robert, avec bien sûr l'art mobilier, les petits, ce qu'on pourrait appeler les petits objets. Nous voici dans le quotidien des hommes et des femmes, du moins pour une partie.
Une partie, en effet. Ces objets, justement, effectivement, souvent petits, mais pas tous. On le voit à travers les différentes vitrines. Il y a finalement des toutes petites statuettes, parfois très étonnantes, à peine 1 ou 2 centimètres de haut. Et puis, au contraire, des bâtons percés ou des propulseurs, cette fois beaucoup plus majestueux. Et ces derniers, justement, sont des objets aussi du quotidien, parce que ce ne sont pas, entre guillemets, que des objets d'art. Ce sont aussi des outils, des armes, des objets qui leur servaient au quotidien pour la chasse, pour travailler les peaux, pour fabriquer un certain nombre d'outils, pour finalement autant d'actions qui relèvent autant de l'artisanat que de l'art. Et ça, on le voit à travers certains de ces objets qui sont pas uniquement exceptionnels ou uniques, mais qui sont parfois fabriqués, j'allais dire, presque en série. Et donc, c'est un regard ou un aperçu au-delà de l'imaginaire, aussi du quotidien et quelque part du fonctionnement social de ces groupes.
Alors, vous avez utilisé deux mots, bâton percé, propulseur, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit aussi bien d'outils que d'armes. Le propulseur, eh bien, ça va être cette arme inventée il y a à peu près 20 000 ans qui va servir à la chasse et qui va servir à propulser des sagaies de manière extrêmement efficace pour aller atteindre ses cibles avec à la fois plus de distance, plus de sécurité et une très grande efficacité dans la chasse des différents animaux, notamment des rennes. Et ces propulseurs, certains d'entre eux sont sculptés, gravés de façon tout à fait exceptionnelle avec des bouquetins, eux-mêmes parfois d'ailleurs affrontés, avec des chevaux montré avec une dynamique remarquable. Donc il y a cette dimension de la chasse qui est présente à travers ces objets et dans la représentation.
Et puis les bâtons percés, c'est ce qu'on appelait les bâtons de commandement avant, dans la littérature du 19e.
Alors on leur a donné beaucoup de noms à ces bâtons percés, ils ont fait couler beaucoup d'encre et là aussi fait travailler l'imaginaire pour le coup des préhistoriens plus que des préhistoriques. Ces bâtons percés en fait avec cette large perforation qui sert souvent d'ailleurs à composer une partie du décor. On leur a prêté quantité de fonctions, on les voit de manière cette fois plus pragmatique comme des objets, comme des outils ayant pu servir soit à redresser des sagaies ou à aménager, à tordre un certain nombre de ligatures, à favoriser des attaches aussi. Ça fait partie des dizaines d'interprétations qui ont été proposées.
Alors il faut bien sûr prendre un exemple, et un très bel exemple que vous présentez, c'est le fameux propulseur du Madasil découvert par Marthe et Saint-Just-Picard dans les années 30.
Alors ce propulseur, il est tout à fait remarquable, il est exceptionnel, parce qu'on a ce faon, voilà, qui a sa tête qui se retourne vers ses oiseaux perchés sur son arrière-train. Alors la scène, déjà, elle est assez étonnante, mais en plus, ce qui est remarquable, c'est qu'on présente ici celui du Mas d'Asile, et à quelques dizaines de kilomètres, toujours en Ariège, dans la grotte de Bédéac, on va retrouver son frère jumeau. Alors il n'est pas complet, celui-là, malheureusement, il a été retrouvé fragmenté, mais on a exactement la même composition, la même scène, jusqu'à un tout petit détail, l'œil du faon, qui a été fait par un petit creusement et lequel était manifestement destiné à recevoir une toute petite pierre colorée et qu'on retrouve sur ces deux objets. Alors évidemment, on se pose la question, s'agit-il du même artiste, du même créateur ? On ne pourra jamais en être totalement certain, mais une telle proximité dans des contextes voisins géographiquement et chronologiquement, forcément ça interpelle.
Les humains sont en général très originaux, des sortes d'identités mouvantes, ayant subi une sorte de métamorphose, Patrick Payet ?
Oui, effectivement, la représentation humaine tranche assez radicalement avec les représentations animales. L'exposition Art et Préhistoire débute par l'humain, précisément, d'une manière un peu originale. On aurait dû débuter quantitativement par les animaux. Les humains sont effectivement plus rares dans l'iconographie et ils sont surtout, globalement, pas systématiquement, mais assez souvent transformés. Ils sont animalisés, bestialisés, bien souvent. Les têtes présentent des prognatismes particuliers qui ne répondent pas du tout, évidemment, aux critères anatomiques d'Homo sapiens. Les corps sont parfois un tout petit peu torturés, mais surtout, ces humains sont souvent fragmentés. Ils sont rarement représentés complets, excepté peut-être le corpus des représentations féminines gravétiennes, les fameuses Vénus, mais ces corps sont souvent fragmentés, et ils sont fragmentés à tel point que le point focal va se localiser sur le sexe. Et nous disposons dans nos corpus de représentations humaines dites sexuées beaucoup plus de sexe que de figures humaines complètes.
Alors, il faut parler, bien sûr, de la Vénus de Lespugue, celle qui est, bien sûr, présentée en majesté dans l'exposition, qui est conservée au Musée de l'Homme et que vous avez restaurée.
Oui, donc la Vénus de Lespugue est effectivement l'original, puisque l'exposition Art et Préhistoire ne présente que des objets originaux, pas loin d'une centaine. Et la Vénus de Lespugue, façonnée dans l'ivoire de mammouth, est ici présentée d'une façon originale. Elle est couchée. Tout simplement couchée, peut-être, probablement, comme elle a été découverte en 1922, il y a donc 100 ans maintenant. Elle est représentée couchée parce que, eh bien, il se trouve que les soclages verticaux, la présentant de manière verticale, ont pour effet secondaire, malheureusement, de la fragiliser, de risquer de la dégrader. Donc les restauratrices qui ont travaillé à la dérestauration, pas la restauration, la vraie dérestauration de cet objet, qui avait été consolidé et recollé en quelque sorte il y a 100 ans quasiment, a été entièrement dérestaurée, les cols ont été enlevés, etc. Et elle est aujourd'hui lassivement allongée dans une sorte de soclage tout à fait original qui reprend sa forme générale, mais qui lui donne une autre vie, une vie différente, et elle exhibe toujours ses formes tout à fait fantastiques, qui ont fait jaser dans le monde de la préhistoire et ailleurs.
Vous présentez d'autres Vénus gravétiennes de la sorte ?
Quelques Vénus gravétiennes, effectivement, quelques Vénus gravétiennes, mais aussi des Vénus magdaléniennes, puisque ce sont ces deux univers, en fait, à un peu plus de 10 000 ans d'écart, qui vont être ici proposés, notamment les très très belles Vénus noires des collections du Man, voilà, ces Vénus de Grimaldi, qui sont avec des formes et des volumes tout à fait étonnants, et selon des canons, et c'est un des aspects remarquables de cette statuaire gravétienne, que l'on retrouve du sud-ouest de la France, de nos Pyrénées, avec Patrick, parce qu'on est deux Pyrénéens, jusque dans les plaines de l'Oural, il y a un peu plus de 25 000 ans. Et ça, c'est un des phénomènes tout à fait étonnants qui est ici illustré avec quelques-unes de ces fabuleuses statuettes.
Donc les idées circulaient ?
Oui, manifestement, elles circulaient largement. C'était des concepts formels tout à fait, non seulement originaux, mais qui ont rencontré un véritable succès. Les Vénus gravétiennes ont inondé le même...